Donc bonjour à chacune et à chacun. Nous continuons donc l'étude de l'épître de Paul aux Colossiens et nous en sommes arrivés au chapitre 2 et au verset 4 à 15. Et donc je vous propose de raisonner en quatre temps. D'abord nous allons lire le texte, puis nous ferons un petit rappel des épisodes précédents. Parce que c'est le début d'année et que peut-être c'est un petit peu lointain chez certains. Et puis pour nos visiteurs, ce sera aussi l'occasion de rapprocher un peu les wagons. Nous essaierons de comprendre le texte avant une planche de résumé. Donc je vous propose de lire cette portion de l'Épître aux Colossiens. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par des discours séduisants. Car même si je suis absent de corps, toutefois, je suis avec vous en esprit, me réjouissant de voir votre bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, ayant été enracinés et étant édifiés en lui et étant affermis dans la foi, conformément à ce qui vous avait été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de tout pouvoir et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, et ayant aussi été ressuscité en lui ensemble, par la foi en l'action puissante de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'acte rédigé contre nous, en vertu des prescriptions légales qui étaient contre nous. Et il l'a annulé en la clouant à la croix, ayant dépouillé les pouvoirs et les autorités, il les a donnés en spectacle, triomphant d'eux en la croix. Alors nous allons rappeler un petit peu dans quel contexte nous nous situons dans cette lettre de Paul aux Colossiens. Et tout d'abord, j'aimerais rappeler le plan général de la lettre. Alors ce plan n'est pas forcément celui que vous retrouvez partout, parce que suivant les commentateurs, il y a des petits découpages différents. Paul, dans cette lettre, même s'il traite différents sujets, a une approche assez continue de passer d'un sujet à l'autre. Sans forcément de rupture parfaitement claire. Néanmoins, il me semble qu'au-delà de l'introduction qui était composée entre autres d'une action de grâce, nous pouvons distinguer trois grandes parties. Une partie doctrinale sur la personne et l'œuvre de Christ, qui couvre la fin du chapitre 1 et le tout début du chapitre 3, du chapitre 2, pardon. Ensuite, une partie polémique que nous abordons ce dimanche-ci, qui va nous parler de la plénitude du chrétien en Christ. Et ce sont les versets 4 à 19 du chapitre 2. Nous allons traiter donc une bonne partie de cette section-là. Et enfin, une troisième partie éthique, la vie en Christ, à partir du chapitre 2 et le verset 20 jusqu'au chapitre 4, verset 6. Et comme il est d'ordinaire le cas dans les lettres de Paul, il y a des salutations qui terminent son épître dans les versets 7 à 18. Donc, trois parties doctrinales, polémiques, éthiques, et toute centrée sur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, notre plénitude en lui, et comment vivre en Christ. Alors, dans les planches qui suivent, j'ai emprunté au présentateur précédent, à savoir à Thibault et à Olivier, un petit peu des planches de résumé. Donc, Thibault avait introduit la lettre en concluant sur cinq points principaux qui sont abordés dans cette lettre. Donc, il y a la question des origines. Par lui ont été créées toutes choses. La tentation du syncrétisme, avec ses influences diverses et variées, qui se faisait jour auprès des chrétiens de Colosse. Et Paul écrit cette lettre, sans doute en grande partie, pour contrer cette tentation du syncrétisme, c'est de la prophylaxie qui est fait ici, hein, du traitement préalable, puisque, comme nous l'avons lu, il est quand même assuré qu'il y a de la fermeté dans la foi, mais il a peur qu'il y ait des dangers. L'absolu face au relativisme, en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, bien entendu, nous reviendrons sur ce texte, l'œuvre de réconciliation qu'a opéré Jésus-Christ, qui nous a réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, et enfin la perspective éternelle que nous ouvre ce verset du chapitre 3, le Christ, quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Donc Thibaut, tu nous avais tracé ces grands thèmes de la lettre, et ensuite nous étions rentrés dans le détail, alors je ne vais pas risquer à reprendre le graphique qu'Olivier nous avait présenté au mois d'octobre sur l'introduction, mais juste rappeler ces différents points. Donc, dans cette introduction, Paul informe et il est informé, et tu avais souligné que c'était important que nous soyons informés, ce qui arrive les uns des autres, que Paul aussi était sensible à ce qui est arrivé aux Colossiens, et ça se marquait par de l'intérêt, par de la prière, par de l'amour en pratique, que nous étions aussi envoyés les uns pour les autres, et se rappeler que nous ne sommes pas qu'un club et que Dieu veut infuser l'ensemble de nos actes et de nos relations. Voilà. Ensuite, au mois de novembre, j'avais eu l'occasion de parler de cette section des versets 12 à 23, qui est une section christologique majeure de toute la Bible, et donc c'est un des sommets de la révélation sur Jésus-Christ. Petit clin d'œil avec l'image pour un ami suisse. Nous avions vu que cette section pouvait aussi avoir des enseignements pratiques, ça pouvait nous rendre tranquilles, puisque tout est soumis à Jésus-Christ, au Fils. Nous pouvions tenir ferme aussi, nous étions appelés à tenir ferme dans cette foi en Jésus-Christ et rendre grâce au Père pour l'héritage, pour la délivrance du pouvoir des ténèbres, pour la position dans le royaume du Fils de son amour, pour le pardon des péchés. Ensuite, nous avions poursuivi notre étude par la section qui va du chapitre 1, verset 24 à 2, verset 3. Alors, je n'étais pas là ce dimanche, donc ça va être un peu difficile de résumer ce que Thibaut, tu avais présenté, mais ta planche était quand même suffisamment claire pour montrer qu'il y avait dans cette section les deux aspects du ministère de Paul, qui étaient à la fois au service de l'Évangile et au service de l'Église, donc à la fois dans cette approche vers l'extérieur et vers l'intérieur. Les deux aspects de l'annonce, Christ qui est déjà en nous, mais qui est aussi l'espérance de quelque chose de plus qui va arriver, l'espérance de la gloire. Et enfin, les deux qualifications de Paul, qui à la fois parlaient de la communion dans les souffrances et de la communion dans le travail. Et donc, nous arrivons à la deuxième partie de la lettre, et nous allons essayer de comprendre le texte qui est devant nous. Et cette deuxième partie de la lettre, je vous invite à ouvrir votre Bible, parce que vous verrez peut-être davantage cela, c'est que cette partie polémique me semble basée sur quatre « que personnes ». Si nous prenons le texte, nous voyons qu'au verset 4, au verset 8, au verset 16 et au verset 18, Paul scande « que personne, que personne, que personne, que personne ». Et donc, il a peur, il a une crainte, c'est qu'au sein de cette église de Colosse, il y ait quelqu'un, pas forcément toute l'église, mais quelqu'un qui soit sensible peut-être à tel danger, un autre à tel autre danger, un autre à tel autre danger. D'où c'est que personne, que personne, que personne. Et donc, il va successivement faire quatre séries d'avertissements contre la séduction d'une belle forme. Et là, il va dire, il ne faut pas être séduit, mais être enraciné en Christ. Et ce sont les versets 4 à 7 que nous allons voir dans un instant. Contre le piège de la philosophie humaine. Et il va dire, ne devenez pas une proie, mais voyez votre plénitude en Christ. Versets 8 à 15. Et puis, le mois prochain, contre le ritualisme juif, ne pas se laisser juger, mais prendre conscience de la réalité en Christ, dans les versets 16 et 17, et contre le mysticisme païen, ne pas se laisser condamner, mais tenir ferme le Christ, versets 18 et 19. Donc, on voit combien ces influences diverses avaient sans doute jour à Colosse, et que Paul essaye de faire un peu le tour des dangers potentiels que pouvaient courir ces chrétiens. Et chaque fois, vous voyez, c'est vraiment le centre de la lettre, en Christ, en Christ, en Christ, tenir ferme en Christ aussi. Ces quatre aspects-là. Donc, cette partie polémique, nous allons voir les deux premières parties aujourd'hui, et ensuite, comme vous le constaterez, si vous regardez encore votre Bible, chapitre 2, verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ », chapitre 3, verset 1, « Si vous êtes ressuscité avec Christ ». Et donc, les versets 20 à 23 du chapitre 2 et les versets 1 à 4 du chapitre 3 forment une espèce de charnière pour ensuite en introduire des exhortations beaucoup plus pratiques à partir du chapitre 3, verset 5, qui vont déboucher aussi sur le code éthique par rapport aux relations de couple, de famille et de travail que nous avons à partir du chapitre 3, verset 18. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu aussi le plan futur, pas simplement ce qu'on a vu les dernières fois, mais aussi ce que nous verrons les fois suivantes. Donc là, maintenant, nous allons revenir à ces deux premiers dangers que Paul aborde. Et le premier danger, c'est celui de la séduction de la forme. Que personne ne vous abuse par des discours séduisants. Alors c'est vrai que le contexte hellénistique dans lequel Paul se mouvait, en particulier l'Asie mineure, la Grèce, ils étaient très attentifs et très désireux d'avoir des gens qui respectent des formes oratoires. Il y avait tout cet accent mis sur le discours de sagesse. Et Paul, on le sait, en particulier aux Corinthiens, va dénoncer cela comme s'il n'y avait que la forme qui importait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément des pros de la rhétorique, mais néanmoins, nous vivons dans un siècle qui, si la forme a peut-être changé, c'est plus maintenant des PowerPoint, néanmoins, elle reste quand même très très importante et sans doute dans notre siècle de communication, on dit qu'il y a le savoir, le savoir-faire et surtout le faire savoir. Comment surtout le faire savoir ? Et parfois, on constate que finalement, la forme l'emporte sur le fond. Je pense que dans nos centres de travail respectifs, ce sont des choses que nous avons pu observer. Parfois, l'accent était tellement mis sur la forme que parfois on oublie un peu le fond. Donc il y a cette absence de recul sur le fond. Et puis aussi, il y a toujours cet attrait du gourou, de celui qui a un message puissant. Moi, je suis frappé de voir combien certains, parfois, se font avoir par des vidéos sur YouTube ou de ça. Alors, effectivement, c'est très bien fait, mais quand on gratte un peu, on se dit, mais ça ne tient pas debout. Sauf que c'est tellement bien présenté, c'est tellement puissant dans la forme que finalement, on se fait avoir. Et si, malheureusement, l'accent est mis aujourd'hui sur le danger de certaines sectes, c'est entre autres parce qu'il y a cet attrait de la forme qui n'est pas nouveau, puisqu'il y a 20 siècles, Paul le dénonçait déjà à Colosse, comme étant un risque d'être abusé par des discours séduisants. Alors, quel est l'antidote ? L'antidote, c'est marcher en Christ. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, le Seigneur, marchez en lui, ayant été enraciné, sous-entendu en lui, puisque c'est dans la phrase d'après. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus ? Alors là, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'anachronisme, parce que pour nous, on dit « Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus ?» Sous-entendu, est-ce que tu t'es converti ? Dans le Nouveau Testament, recevoir le Christ, c'était recevoir l'enseignement par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, ce que je vous ai enseigné, ce que j'ai aussi reçu, Jésus-Christ, mort selon les Écritures, ressuscité au troisième jour selon les Écritures, etc. Donc, recevoir le Christ, bien entendu, c'est subjectivement accepter Jésus, mais c'est d'abord et avant tout recevoir l'enseignement sur ce qui s'est passé, les basiques de la foi à propos de Jésus, historiquement, les grands faits de notre foi, son incarnation, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est cela d'abord et avant tout recevoir le Christ. Et le recevoir, Jésus, le Christ Jésus, le Seigneur. Donc là aussi, ça tord le cou à cette idée qui malheureusement est parfois encore un petit peu répandue, que d'abord on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, et puis après, peut-être après avoir bien profité de la vie, eh bien on l'accepte comme son Seigneur. Non, ça ne marche pas. Et l'évangélisation que nous devons porter, elle doit porter aussi cette exigence, que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit le Seigneur, celui qui a donc autorité sur la vie. Et donc, on ne peut pas finalement acheter juste son ticket pour le ciel et puis finalement se dire, Seigneurie de Christ, ça viendra plus tard. Non, c'est vraiment un tout là-dessus. Et alors, il y a ce verbe que nous trouvons souvent, qui dans d'autres versions est traduit par vivre, mais il est intéressant de garder cette littéralité du verbe marcher. Marcher, c'est donc un style de vie en général, c'est la conduite chrétienne. Et alors, c'est assez amusant, moi ça m'a toujours beaucoup amusé cette phrase de Paul, puisqu'il dit « marcher ayant été enraciné ». Donc on est c'est des arbres qui marchent. J'ai trouvé cette image, je suis très content de trouver ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire à marcher en étant enraciné? Ça veut dire que finalement, la vie chrétienne, elle est à la fois solidement ancrée, solidement enracinée, ayant été enracinée, hein, c'est au passé. C'est donc quelque chose, je suis enraciné dans le sens où je suis fermement assuré, certain de d'où vient ma foi. Exact. Mais pour autant, il n'y a rien de statique, puisqu'il y a aussi quelque chose qui doit nous faire avancer. Et donc, ça nous parle de la cohérence entre ce que nous croyons, donc ce Christ que nous avons reçu, dans lequel nous sommes enracinés, et cette marche. Je rappelle que la semaine dernière, Philippe Garzaro, dans son introduction du culte, justement, nous avait parlé de cette discussion qu'il avait eue avec quelqu'un qui disait « Comment réconcilier ma foi et ma vie de tous les jours ?» Eh bien, c'est exactement ce que Paul nous propose ici, puisqu'il nous propose à la fois de marcher, ça c'est ce qu'on fait, on vit tous les jours, hein, c'est le style de vie en général, c'est la conduite chrétienne, marcher, et comment en même temps on peut l'articuler avec la foi. Donc cette cohérence vie-croyance, cette unification de vie à laquelle nous aspirons les uns et les autres, eh bien nous la trouvons proposée ici par Paul dans ce verset quelque peu paradoxal, puisque donc, nous sommes invités à marcher en étant enracinés, cet enracinement étant à la fois une action de Dieu, hein, c'est au passif, mais c'est enraciné en Christ, enraciné dans une personne. Et c'est vrai que nous ne pourrons jamais être enraciné dans une religion, dans des dogmes, etc., parce que ce n'est pas assez profond. Ça ne nous permet pas d'aller chercher la sève vivante, et la sève vivante, nous la trouvons qu'auprès d'une personne de Jésus-Christ. Le deuxième point que Paul propose, puisque si vous avez le texte sous les yeux, vous verrez « marchez en lui », et puis ensuite il y a quatre participes présents, « ayant été enracinés, étant édifiés, étant affermis, abondant en elle ». Donc le deuxième, c'est « édifier en lui », donc « grandir en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire être édifié? Ça veut dire grandir dans sa connaissance, grandir dans son imitation, et il y a toujours des progrès à faire. Il y a toujours d'autres caplas à rajouter au-dessus. On n'atteint jamais le sommet. Donc, nous avons besoin de cette croissance en Jésus-Christ édifiée en lui. Paul aime bien jouer des métaphores et elles abondent dans ce texte qui est à la fois très ramassé et très dense de ces versets 4 à 15 du chapitre 2 de Colossiens. Et donc, là, il prend l'image, cette fois-ci, plus de la maison. Enraciné, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein. Les racines, ça plonge dans le sol. On ne les voit pas, mais c'est ce qui assure la stabilité. Tandis que là, édifié, c'est au contraire quelque chose qu'il voit. Eh bien, on pense à cette vie chrétienne qui se développe et qui se voit de plus en plus autour, puisqu'il y a cette édification comme un immeuble qui grandit. Ah ben oui, tiens, là, ils ont rajouté le cinquième étage et puis ils ont rajouté le sixième étage. Vous voyez, c'est toute cette croissance en Jésus-Christ que nous sommes appelés à avoir. Et cette croissance, elle se fondera en étant affermie dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné. Donc nous avons besoin de garder fermement l'enseignement reçu. Et cet enseignement, il sera confirmé par l'exemple des enseignants. C'est pour ça que Paul parle de cela juste après la section que Thibaut, tu avais évoquée le mois précédent, où Paul se présentait comme exemple aussi. Puisque finalement, cette croissance que Paul souhaitait aux Colossiens, lui-même, il en donnait l'exemple. Cet affermissement dans la foi, conformément à ce qui vous avait été enseigné, et donc il faut rester dans cette persévérance et dans le sentiment de la grâce de Dieu. Donc conformément à ce qui vous a été enseigné, c'est pas que Paul veuille dire il y a des traditions, il ne faut pas en déroger d'autant. Non, c'est parce qu'il ramène finalement à cette foi en Jésus-Christ dont il est persuadé, lui, qu'elle a été annoncée fidèlement. Alors, ce qu'il a remarqué, d'ailleurs, c'est qu'elle n'a pas été annoncée par Paul, puisqu'on sait qu'il n'a pas évangélisé Colosse, mais c'est un de ses amis qui l'a fait. Et donc, il est confiant aussi dans ce qu'il n'y a pas que lui qui annonce un évangile correct, mais qu'ils avaient été bien enseignés. Et cet enseignement reçu, gardé fermement, nous avons besoin de le faire dans le sentiment de la grâce de Dieu. Alors là, ça pose un petit sujet, c'est que, surtout sur un auditoire dont la moyenne d'âge est inférieure à la mienne, eh bien, vous pourrez dire, oui, là tu prêches un petit peu pour ta paroisse, dans ce sens que y a peut-être aussi des choses nouvelles. Oui, effectivement, il peut y avoir une approche nouvelle, mais de sujets qui restent anciens. parce que la clôture de la révélation, les 66 livres auxquels nous ne devons ni rajouter ni retrancher, eh bien, fait que finalement nous devons être suspicieux vis-à-vis de tous ceux qui veulent rajouter après. Alors, il y a des choses un peu grossières comme le livre des Mormons. On ne vient pas ici avec notre Bible et avec le livre des Mormons. Mais il y a des choses un petit peu plus subtiles aussi qu'on peut vouloir rajouter à la parole de Dieu, alors que ce qui nous est demandé, c'est de revenir à cette foi, au sens sans doute d'enseignement qui nous a été donné, cette foi transmise une seule fois pour les saints, que nous avons besoin de revisiter dans le sens où, bien génération après génération, on y met notre gangue de traditions purement humaines, mais la foi elle-même reste, elle, intangible et n'a pas besoin d'être modifiée. Et puis, le quatrième point, abondante en elle avec des actions de grâce. Il vaudrait peut-être la peine, à la fin de la lecture de notre lettre aux Colossiens, de relever le nombre de fois où il est question d'actions de grâce. Rendant grâce au Père, avions-nous vu le chapitre 1, verset 12, Paul nous donne l'exemple au début de sa lettre puisqu'il rend grâce, et puis nous allons retrouver encore au chapitre 3 qu'il faut remercier, en toute chose rendez grâce. Voilà. Donc on voit bien que cette disposition du chrétien à remercier Dieu, eh bien, elle est fondamentale. Paul dit dans l'épître aux Éphésiens que c'est un des signes du fruit de l'Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, comment cela se montre-t-il? Eh bien, entre autres, parce qu'on va remercier Dieu, on va être reconnaissant. Et finalement, cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, elle nous ramène au fond de ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants pour Jésus-Christ, pour le salut, pour la Bible, pour l'Église. On l'a un petit peu dit ce matin, par exemple, par rapport à l'Église. Et j'ai mis le « etc. » parce que la planche aurait été trop courte pour mettre la liste de tout ce pourquoi nous devons rendre grâce. Et finalement, cette action de grâce, quelle que soit sa forme, je dirais, même dans sa simplicité, eh bien, c'est pour nous un moyen de rester ferme dans la foi, parce que ça nous ramène finalement à ce pourquoi nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Voilà. Et donc, quand vous savez, parfois on parle de vie abondante. Qui c'est qui recherche une vie abondante? Voilà, c'était un des grands thèmes de l'Église il y a quelques décennies. Eh bien, la vie abondante, c'est d'abord une vie reconnaissante, puisque abonder en elle, abonder dans la foi avec des actions de grâce, c'est une vie abondante, c'est une vie reconnaissante. Donc quelqu'un qui vit dans la reconnaissance, au lieu de se plaindre tout le temps, eh bien, il vit une vie abondante selon Dieu. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation. Le deuxième danger que Paul dénonce, c'est la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Alors, est-ce que la philosophie, c'est donc une matière à éviter? Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a eu une réunion d'études régionales, et puis un frère qui n'était pas de notre église venait me voir en me disant « Joël, qu'est-ce que tu fais ?» Bon, à l'époque, j'étais en classe prépa scientifique. « Ah, c'est bien, parce que la philosophie, ça peut nous détourner de Jésus. » Je ne suis pas certain que les études scientifiques ne puissent pas aussi détourner de Jésus ou que la philosophie ne puisse pas y ramener, mais voilà. Enfin, vous voyez, il y avait cette idée-là que la philosophie, c'était le mal, ce n'était pas bien de faire de la philo. Bon. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, ne nous trompons pas et ne faisons pas d'anachronisme. Quand Paul parle de philosophie, ce n'est pas simplement l'enseignement de Socrate, de Platon, d'Aristote, etc. Non, non. C'est pas directement cela qu'il a en vue. Le sens du terme à l'époque, c'était un sens qui était très large. Et en fait, c'était un sens qui englobait toute vision du monde. En fait, voilà. Alors, peut-être que, au risque cette fois-ci d'un anachronisme, je prendrai un terme allemand qui est un peu intraduisible, qu'on appelle la Weltanschauung, cette vision du monde, conception du monde. Donc c'est ça en fait, ne fasse de vous sa proie par une conception du monde trompeuse et vide. Donc c'est pas simplement la philosophie au sens de matière qu'on apprend en terminale, qui est une matière parmi d'autres et qui est très intéressante, mais c'est plutôt quelle est ma conception du monde, quelles sont les représentations et les attitudes qui y sont liées. Donc c'est pas simplement la conception purement intellectuelle, la philosophie dans ce sens ici du mot qu'emploie Paul, mais c'est aussi la conception du monde, les représentations que je m'en fais, et comment cela se traduit aussi dans ma façon de vivre. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Paul ne détaille pas trop ce qu'il a en vue là. Et même d'ailleurs, quand on lit les commentaires, on voit qu'ils sont assez partagés sur quelles étaient exactement les influences qui se faisaient jour à Colosse et que Paul cherche à combattre. Donc, je pense que ce que tu nous avais dit en introduction, Thibault, résume bien, c'est une espèce de syncrétisme. Mais derrière, quelles étaient les briques de ce syncrétisme, on ne le sait pas trop. Et quelque part, tant mieux, parce que ça nous permet justement d'appliquer ce verset à des visions du monde, à des conceptions du monde, qui peuvent être assez variées et diverses. Et donc, ce que dit Paul, donc le sens est volontairement large et ça peut est vague, donc ça peut s'appliquer à plein d'endroits. Donc Paul dit, ben, finalement, il ne faut pas qu'on se soit attrapé face de vous, sa proie. Donc là aussi, c'est fort comme terme. Hein, ça veut dire qu'on se laisse attraper par des idées qui ne sont pas selon Christ, mais qui sont basées sur la tradition des humains. Donc ça, on pense à ce que Jésus disait aux pharisiens, hein, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Donc on voit bien que ça peut être une façon aussi de se faire avoir en disant, ah ben non, Père a toujours fait comme ça, donc je ferai toujours comme Père a fait. Donc c'est pas du tout l'idée. Et puis selon les principes élémentaires du monde. Alors c'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'on y voit derrière? Il y a trois grandes explications. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste dire que pour moi, ces principes élémentaires du monde, ce sont les axiomes. Ce sont les idées qui fondent le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons. Et ces axiomes-là, eh bien, certains sont selon Christ, au moins en partie, parce que tout n'est pas à rejeter, et d'autres sont vides et trompeurs, et ils sont vraiment opposés à Jésus-Christ. Et cela, c'est vrai, donc cette philosophie, donc cette conception du monde, ces principes élémentaires du monde, c'est vrai à la fois par rapport au monde, au sens le monde, c'est-à-dire à l'extérieur de ce qui est chrétien, mais aussi chrétien. Et il faut bien voir qu'il y a des textes qui, en particulier Flavius Josèphe, prend exactement la même expression, les principes du monde et philosophie, pour l'appliquer par exemple à la façon de penser des Sadducéens ou à la façon de penser des pharisiens. Donc finalement, ce serait assez facile de dire, ah ben oui, mais il y a les principes élémentaires, les axiomes du monde du dehors qui sont pas bons à cause de ceci, de cela, etc. Et puis il y a l'Église. Ben, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il peut aussi se faire que dans l'Église, eh bien, il y ait des principes élémentaires, des axiomes qui ne soient pas forcément très justes. Et c'est ce que Paul va présenter aussi dans la suite quand il va faire allusion à des principes judaïsants. Et donc la question se pose vraiment ici aussi pour nous, Anthony, quels sont les principes élémentaires, les axiomes que nous pourrions mettre en œuvre ici et qui ne seraient pas selon Jésus-Christ? Voilà. La question, vraiment, me semble-t-il, se pose. Alors, la question qui se pose aussi, c'est que donc nous avons cette philosophie, cette vision du monde, et il me semble que ça se résume finalement en deux référentiels. Soit nous mettons l'humain au centre, et parfois l'humain, c'est extrêmement attirant. Là, je vous ai mis l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci. S'il y a un humain sur la Terre, qui a été un esprit extraordinaire, c'est bien Léonard de Vinci. Et il y a eu une exposition il y a quelques années au Louvre où justement ce petit livre avait été exposé. J'avais été très content de le voir. Mais quelque part, l'humain au centre, ça veut dire que l'homme est autosuffisant et c'est ce que le diable avait proposé à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Vous serez au centre. Vous serez au centre. Tandis que l'autre côté, c'est de mettre Jésus-Christ au centre et de voir quel regard, c'est pour ça que j'ai pris cette image, quel regard Jésus-Christ porte sur le monde et essayer d'adopter le même. Et mettre l'humain au centre, ça peut aussi être le cas dans l'Église. Ce n'est pas simplement mettre l'humain au centre quand on regarde ceux qui ne sont pas chrétiens ou les systèmes de pensée ou les conceptions du monde non chrétiennes, mais même aussi au sein des chrétiens. Si par exemple ben, le pasteur devient celui qui régente tout, eh bien, quelque part, l'humain est au centre. Même si on parle de Dieu, même si on parle de Christ, et quelque part, c'est peut-être plus difficile à débusquer quand ça prend des atours soi-disant spirituels. Alors, l'antidote, c'est quoi? C'est mettre Christ au centre. Et c'est pour cela que Paul enchaîne tout de suite par cette expression extraordinaire, car en lui, habite toute la plénitude de la déité corporellement. Pour connaître Dieu, pour nous approcher de Dieu, nous n'avons pas besoin de Christ plus quelque chose. Quel que soit ce quelque chose, nous avons besoin de Jésus-Christ. Toute la plénitude de la déité habite corporellement. Un mot qui ne figure qu'ici, cette déité. Donc c'est pas simplement c'est pas simplement que Jésus était revêtu des attributs divins, c'est qu'il était Dieu lui-même vu réellement dans un corps sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire en vérité, celui qui m'a vu a vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, dit Jean dans cette magnifique conclusion de son introduction à l'Évangile. Donc Dieu est pleinement et parfaitement révélé. Et donc pour paraphraser un philosophe célèbre, je dirais que finalement, le christianisme est un humanisme puisque en Jésus-Christ fait homme, nous avons la pleine révélation de ce qu'est Dieu. Et quand Pilate dit « voici l'homme », eh bien en Jésus-Christ, celui qui est venu corporellement, donc dans un corps d'homme, eh bien, nous avons la pleine manifestation de ce qu'est l'homme, puisque Jésus-Christ nous a montré l'exemple d'un homme qui n'était pas, qui ne mettait pas l'humain au centre, mais qui mettait Dieu au centre, et qui lui-même était en plus Dieu lui-même. Donc, vous voyez combien, en Jésus-Christ, nous avons ce qui est nécessaire. Et donc, reprenant l'expression à quelques nuances près qu'il avait déjà évoquées au premier chapitre, l'apôtre Paul présente en lieu et place de cette conception du monde, il dit, mais moi je vais vous remplacer la conception du monde en fait par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Parce que quand vous serez en relation avec Dieu, eh bien alors dans ces cas-là, vous remettrez les choses dans l'ordre. Et ce qui fait que l'homme ne va pas, c'est que ce qu'il n'a pas remis dans l'ordre, c'est que finalement, il s'est séparé de Dieu. Et dans cette séparation de Dieu, eh bien, il y a cette aliénation de l'humain et donc ce vide, ce creux. Vous connaissez peut-être cette expression de Blaise Pascal qui dit que nous avons un vide en nous que seul Dieu peut combler, finalement. L'homme a ce vide. Et alors, ce que Paul dit dans l'expression qui suit, donc en lui habite la plénitude de la déité corporellement, et vous avez tout pleinement en lui. La plénitude habite en Jésus, et nous avons tout pleinement en lui. Paul fait exprès le lien, hein, donc cette plénitude qui est en Christ, eh bien maintenant, elle peut être pleinement en nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que nous avons en Jésus-Christ la base de la doctrine chrétienne. Et donc il me semble que, là j'ai mis le système de pensée chrétien, qu'à partir de ce point de départ que nous avons vu ici, donc en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, dans la fin du verset 9 et dans les versets qui suivent, Paul va nous donner sa vision du système de pensée chrétien. Et la base, c'est que nous avons tout en Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, fils de l'homme, Christ, sauveur, Seigneur. Nous avons tout pleinement en lui. Et donc, la pensée chrétienne, elle est basée sur l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, sur des faits historiques. Et nous avons besoin de nous prêcher régulièrement ce que nous avons en Christ. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais, Paul ne va pas beaucoup dire « Mais attention, la philosophie qui est mauvaise, celle qui est, ou cette conception du monde qui est mauvaise, qui est vide et vaine, ben, je vais vous dire les dangers. » Non, non, il va présenter le côté positif. Et ça, je pense que c'est aussi une tournure d'esprit que nous devons avoir. Plutôt que de nous éreinter à nous battre contre les philosophies du monde, contre les conceptions du monde qui ne nous semblent pas chrétiennes, qui ne sont pas selon Christ, eh bien, d'abord et avant tout, mettons tous nos efforts pour présenter ce qui est selon Christ. Ce sera beaucoup plus efficace, dans un sens. Et donc, ce que dit Paul, c'est que nous avons tout pleinement en lui. Et là, ça me permet de rebondir aussi sur ce qui a été présenté sans doute la dernière fois, qu'en Christ, nous avons tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais quand même, la philosophie, c'est drôlement intéressant, ou les conceptions du monde, j'ai envie de les regarder, les comparer, etc. Bon, pourquoi pas? Mais tandis que les chrétiens, bah, c'est un peu ratatiné. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je l'ai mis. Nous n'avons pas à avoir de frustration intellectuelle en devenant chrétien. Parce que justement, nous pouvons revoir les choses, mais en les mettant à l'endroit, de façon cohérente avec ce que le Créateur nous a donné. Et donc, c'est important de nous prêcher régulièrement les bases de la doctrine chrétienne et de revenir à Jésus-Christ en qui nous avons tout pleinement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, dans la conception du monde, la Weltanschauung de 2023, qu'est-ce que c'est ? Ben, il faut s'accomplir soi-même. Très bien. Eh bien, Paul va dire, mais c'est super. Bien sûr, il faut s'accomplir soi-même. Regarde, il faut être plein. Mais oui, sauf que pour s'accomplir soi-même, eh bien, ça ne peut pas être réellement fait si on est détaché de Jésus-Christ. Donc, c'est super l'accomplissement de soi, mais cela n'est valable que dans la mesure où on reste attaché à Jésus-Christ. Deuxième point dans le système de pensée chrétien, une nouvelle humanité. Alors, dans les versets 11 et 12, Paul va parler de la circoncision, du baptême. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours très simple à comprendre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que faisait la circoncision à l'époque ? Eh bien, elle séparait deux catégories de personnes. Il y avait les circoncis et les incirconcis. Il y avait ceux qui étaient juifs et les non-juifs. C'était deux humanités différentes. Et dans sa lettre aux Éphésiens, Paul va prendre tout un chapitre pour dire, bah, finalement, ces deux-là, maintenant, ils n'en forment plus qu'une seule humanité. Et c'est une nouvelle humanité qui est reliée au nouvel homme qui est Jésus-Christ. Alors, dans le texte de Colossiens parallèle que nous avons ici, Paul ne va pas reprendre tout ce qu'il dit aux Éphésiens, mais quelque part, il va dire que ce qui distingue aujourd'hui cette nouvelle humanité qui est liée à Jésus-Christ, c'est qu'elle est distinguée par le baptême, qui est la contrepartie chrétienne de la circoncision de l'Ancien Testament. Et de ce fait, cette nouvelle humanité, qu'est-ce qu'elle a de si singulier ? C'est qu'au lieu d'être détaché de son Créateur, comme l'homme qui veut être autonome, qui veut être système de pensée à lui-même, eh bien, au contraire, elle est liée à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. De sorte que c'est le baptême qui fait cette séparation, baptême spirituel dont témoigne le baptême d'eau, bien entendu, eh bien, c'est le baptême qui fait cette séparation, désormais, entre les humains qui sont reliés à Jésus-Christ, qui adoptent cette façon de voir les choses qui désormais les relient à Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas reliés encore à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Dans le troisième point que je relève au verset 13, nous continuons donc la lecture pour relever ces différents points sur le système de pensée chrétien que Paul nous donne, c'est la réalité du péché et de la mort spirituelle. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair. Et à mon avis, la faiblesse fondamentale de tout système de pensée, de toute conception du monde, de toute philosophie qui n'est pas selon Christ, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle oublie ce problème du péché et de la mort spirituelle. Alors parfois, c'est partiellement reconnu, mais on va le renvoyer sur d'autres... Sur d'autres aspects, ou si c'est lié à la société, ou c'est lié à ceci, ou c'est lié à cela, que sais-je. Mais ce problème de base, il ne faut ni l'occulter, ni le minimiser, alors que, malheureusement, les conceptions du monde non chrétiennes, me semble-t-il, y compris même parfois étiquetées chrétiennes, mais pas vraiment chrétiennes, oublient qu'il y a cette réalité du péché, de la mort spirituelle. Et Paul n'y va pas par quatre chemins. Et vous, lorsque vous étiez mort, il n'y avait pas de relation entre Dieu et l'homme. Et donc, cette mort-là, eh bien, elle se traduisait de deux manières. Elle se traduisait par des fautes. Et qui peut dire qu'il n'a pas commis de faute ? Et j'aime bien, Paul, ici, ne parle pas de péché, il parle de faute. La faute, c'est l'acte concret. C'est vraiment, là, tu as menti, là, tu n'as pas fait, tu n'as pas été clean, là, tu as eu de mauvaises pensées, là, ceci, etc. C'est la faute, l'acte précis, les actes concrets. Et aussi dans une propension innée au mal, l'incirconcision de votre chair. Le fait que ce qui est dans le tréfonds de nous-mêmes nous pousse naturellement à produire des choses mauvaises. Et donc ça, il faut en prendre la réalité de ce péché et de la mort spirituelle. Et bien souvent, nous avons envie de l'occulter, y compris dans nos vies, en nous justifiant, en le renvoyant ailleurs, etc. Alors que, c'est finalement une bonne chose d'être confronté avec son péché, de voir son caca, je suis désolé de le dire comme ça. Eh bien oui, et même si ça ne fait pas plaisir à voir, eh bien c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience. Néanmoins, Dieu ne nous a pas laissés là-dedans, grâce à lui, et il nous a vivifiés ensemble avec Jésus. Et donc cette relation de mort spirituelle, puisque les Colossiens étaient morts dans le sens où ils n'avaient pas cette relation spirituelle entre Dieu et l'homme, eh bien cette relation a été rétablie par Jésus-Christ. Donc nous avons cette relation rétablie par le Christ, nous sommes vivifiés, et donc nous avons cette relation avec Dieu, et aussi les uns avec les autres. Et vous remarquerez qu'il y a ces deux éléments ensemble et avec lui. Puisque l'aliénation humaine liée à la chute, c'était à la fois la rupture dans la relation verticale entre l'homme avec Dieu, mais aussi la rupture dans les relations horizontales des humains les uns avec les autres. Et en Jésus-Christ, cette relation rétablie, eh bien ça marche dans les deux sens aussi. Nous pouvons aussi avoir ce rétablissement de nos relations les uns avec les autres. Cinquième point que Paul touche, toujours là, nous égrénons les phrases, mais qui sont tellement denses que ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu, le pardon de toutes les fautes. Nous ayons pardonné toutes nos fautes. Et ça, nous n'insisterons jamais assez là-dessus. Quand vous vous êtes converti, qu'est-ce que Dieu vous a pardonné ? Il vous a pardonné vos péchés, on est bien d'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les fautes que vous avez commises depuis que vous êtes conscient ou en âge de responsabilité, jusque au jour où vous êtes converti. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Après, on constate qu'on commet encore des fautes. Et est-ce qu'elles sont pardonnées ? Oui, oui, elles sont pardonnées. Puis on se dit, peut-être que, en attendant que je reçoive le corps de résurrection et la libération totale du péché, est-ce que je vais continuer à commettre des fautes ? Vraisemblablement oui, hein. Il ne faut pas s'illusionner. Mais là aussi, elles sont d'ores et déjà pardonnées. Nous ayons pardonné toutes nos fautes. C'est au passé. Et là, quelles qu'elles soient, est-ce que ce soit des fautes petites ou des fautes grandes ? Amazing Grace, vous savez, ce cantique magnifique, il a été écrit par quelqu'un qui avait été négrier. Voilà. Et Paul peut dire de lui-même, j'ai été le premier des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Assemblée de Jésus-Christ. Et c'était quelqu'un qui avait envoyé des gens en prison et à la mort quand il n'était pas encore à Jésus-Christ. Donc, quelles qu'elles soient, nos fautes sont pardonnées. Et il y a cet oubli divin que des textes de l'Ancien Testament imagent. Ils ont mis des péchés dans les profondeurs de la mer, aussi loin que l'Orient est éloigné que l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions, cette contrepartie Ancien Testament des fautes. Donc vous voyez, quand il y a cette pensée qui peut venir, oui, mais ça, je ne me le pardonnerai jamais. Arrêtons de se dire ça. Non, on peut pas, on n'a pas le droit de se dire je ne me le pardonnerai jamais, parce que Dieu nous l'a déjà pardonné. Nous ayant pardonné, ce que nous ne pardonnerions jamais, si, toutes nos fautes. Donc si Dieu nous a pardonné, pourquoi moi je ne me pardonnerai pas moi-même ? Vous voyez, c'est pas logique. Donc nous ayant pardonné toutes nos fautes. Et si vous avez le moindre doute, vous reprenez ce texte, vous le relisez le nombre de fois qu'il faudra pour que ça rentre. Paul continue, ayant effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales qui étaient contre nous, et il l'a annulé en la clouant à la croix. Alors ça, ce n'est pas forcément très facile à comprendre dans notre texte, dans notre contexte actuel. C'est que ce qui se passait, c'est que Paul là prend l'image d'un acte, une reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette, c'est la faute 1, faute 2, faute 3, puis il y en avait beaucoup. Hein. Ça fait un gros volume, puis le volume grossit en plus. Et puis on a signé en bas. Il dit, ben, c'est comme si Dieu il avait pris ce gros volume. J'efface la page 1, j'efface la page 2, puis le volume, finalement, c'est que des pages blanches. C'est ça. Et puis, il prend un autre exemple à la fin de ce verset. Alors, c'est quoi qu'il y avait dans ce volume ? Les prescriptions légales et qui étaient contre nous. Alors, on peut y voir la loi de Moïse, mais c'est plus large que ça. C'est que dans la conscience de l'homme, il y a cette idée, ben, là, j'ai raté la cible. Je ne suis pas au point. Il y a cette idée. Et Paul, au début de l'Épître aux Romains, en parle quand il parle de ces païens qui ne connaissent pas la loi de Moïse et leur conscience s'excusant et s'accusant. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois une conscience qui leur permet de percevoir dans une mesure ce qui est bien, ce qui est mal, puisque l'homme a gagné cette capacité. Mais ils ont aussi cette conscience qu'ils sont incapables de faire tout le temps le bien. Et le problème, c'est que on peut... ces prescriptions légales, on peut les respecter à 99,9%, le 0,01 suffit à nous condamner. Celui qui est coupable sur un sera coupable sur tous. Et donc, ces prescriptions légales, c'est cette conscience que l'homme a d'être redevable vis-à-vis d'une instance qu'il ne connaît peut-être pas, mais qui a inscrit au fond de son cœur cette pensée de l'éternité et de la capacité à devoir un jour rendre des comptes. Et donc ça, ça a été effacé. Et puis Paul prend un autre exemple, ça a été cloué à la croix. Et ça, ça fait allusion au fait que quand il y avait un criminel qui devait être crucifié, en général, on mettait sur la croix eh bien, la raison de sa crucifixion. C'est que pour Jésus, ça a été ce panneau que Pilate a mis, Jésus-Christ le Nazaréen, le roi des Juifs, puisqu'il s'était prétendu le roi des Juifs. Et même d'ailleurs, les Juifs trouvaient qu'il aurait dû tourner le panneau un peu différemment, mais Pilate ne l'a pas changé, et tant mieux, parce que ça disait beaucoup plus. Et donc, quand Paul utilise cette image, eh bien, pour nous, bien entendu, c'est extrêmement parlant. Ça veut dire que cet acte d'accusation, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a payé. Parce que si Dieu a pu l'effacer, ça n'a pas été sans coût. Ça a été au prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et donc, toutes les exigences de la justice de Dieu ont été portées par Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et c'est ce que Paul nous dit au travers de ce texte, encore une fois, très ramassé. Et donc, quelles que soient les prescriptions légales que nous puissions ressentir, eh bien, nous savons que Jésus-Christ les a portées pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que si ces prescriptions légales ont été crucifiées à la croix du calvaire, ça veut dire que je ne vais pas essayer d'avoir un système de pensée chrétien qui soit basé sur les règles et les coutumes. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour être un bon chrétien. Ça ne marchera pas, puisque c'est contre nous, contre nous, contre nous. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, va bien développer le point. Là, on a l'impression qu'il fait juste un petit résumé, il faut mettre une note de bas de page, confère Romains. Il résume ici des éléments qu'il développe ailleurs en disant que ça ne sert à rien de se faire des règles pour se dire que finalement, je vais être un bon chrétien si je me mets sous ces règles. Non, non, non. C'est pas une pensée en Christ. C'est pas un système de pensée qui soit selon Christ, ça. C'est un système de pensée qui est selon le monde. Ce qui est important, c'est de relier cela à l'acte posé une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Et le septième aspect, c'est ayant dépouillé les pouvoirs et les autorités, il les a donnés en spectacle triomphant d'elles en la croix. Plus de peur des puissances occultes. Alors, ces puissances occultes, elles soient trop craintes, soit elles sont trop niées. Peut-être que dans notre monde, elles sont peut-être trop niées que trop craintes, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elles existent. Jésus en a parlé, il les a même rencontrées, mais il les a rencontrées et il a triomphé d'elles en la croix. Et là aussi, il les a données en spectacle. Quand un Colossien lisait cela, ou écoutait le lecteur public qui lisait la lettre de Paul, ça faisait tilt tout de suite. Il pensait au triomphe de ces généraux romains victorieux d'une guerre confins de l'Empire et qui venaient à Rome. Et comme on le voit, triompher ici, et puis il y avait derrière les prisonniers qui étaient liés. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent Astérix, les lauriers de César, ben, il y a les pirates qui sont derrière, là, pour le triomphe. Voilà. Mais pensez à Colossiens 2, verset 15, la prochaine fois que vous lirez les lauriers de César. Parce que finalement, la victoire que Jésus a remportée, c'est bien au-delà de victoire de ces généraux romains, c'est sur les puissances opposées à Dieu, ces puissances spirituelles. Et donc la croix, c'est une victoire. Et parce que nous sommes à l'abri de la croix, nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Et aucune, ni puissance, ni principauté, tu as cité tout à l'heure dans ta prière, à la fin de Romains 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Donc nous n'avons rien à craindre de ces puissances occultes qui peuvent parfois effrayer. Et ça, c'est un point à affirmer. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de se protéger d'une manière ou d'une autre en essayant de se les concilier ou d'aller voir ce qu'elles nous disent d'une manière ou d'une autre. Eh bien, non. Nous pouvons nous souvenir de la grandeur du triomphe de Jésus. Et ce triomphe, c'est à la croix. C'est intéressant que Paul le rapporte à la croix. Alors bien sûr, la résurrection de Jésus-Christ est la démonstration de ce triomphe. C'est ce qu'il dit en la fin d'Éphésiens 1. Mais la croix elle-même est le moment du triomphe. Et quand Jésus dit à la fin cette septième parole, « Tout est accompli », eh bien c'est cette parole, « Tout est accompli », y compris cette victoire remportée à la croix. Et j'étais très content que nous chantions tout à l'heure la dernière strophe du 43, puisque ça faisait une bonne introduction à mon propos. Donc, en résumé, nous avons vu les deux premiers dangers que dénonce Paul. Le premier danger, c'est la séduction de la forme. Et il nous encourage à marcher en Christ en étant solidement enracinés dans la foi, en cherchant à grandir en Jésus-Christ, à garder fermement l'enseignement reçu et en remerciant Dieu. Et le deuxième danger, c'est le piège du fond. Et nous avons besoin de voir notre plénitude en Christ. Nous avons tout en Jésus. Nous sommes une nouvelle humanité. Et dans notre conception du monde, il y a cette réalité de la mort et du péché, de la mort spirituelle. Mais nous avons une relation qui a été rétablie par le Christ, qui nous a pardonné toutes nos fautes. Nous n'avons plus besoin de nous mettre sous des règles. Et nous n'avons plus à avoir peur des puissances occultes. Vraiment, nous pouvons dire que cette épître aux Colossiens qui nous présente notre plénitude en Christ est extrêmement encourageante pour notre vie chrétienne.